Le gang des essais. Le gang. Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements sans des
soins.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres, bienvenue sur le Gang des Hystéries, émission que vous écoutez sur PFM avec la première diffusion le troisième lundi de chaque mois à 21h30 et vous pouvez aussi retrouver le podcast sur Micro Rebelle. Pour l'émission de ce mois-ci, je suis avec ma comparse Lily.
Hello.
Nous sommes aussi avec Touga.
Salut tout le monde.
Et si vous vous souvenez, je crois qu'il y a plus d'un an maintenant, on avait une autre comparse qui était avec nous et qui revient pour notre plus grande joie. Bonjour Sarah.
Coucou.
Alors, pour aujourd'hui, le thème, ça sera parentalité aujourd'hui. On verra ça tout à l'heure avec les livres. Oui, on va avoir de quoi parler. Avec les livres qui nous seront proposés. Mais comme d'habitude, le petit agenda de qu'est-ce qui va se passer dans le mois à venir. Tout d'abord, pour notre association, le Planning Familial, on fait enfin notre Assemblée Générale le mercredi 30 septembre à partir de 18h au local du Planning Familial. Donc si vous voulez voir, vous renseigner ou nous rencontrer pour savoir ce qu'on fait et ce qu'on va faire, n'hésitez pas à venir, tout est fait pour vous accueillir dans les conditions sanitaires qui sont celles actuellement. Ne vous inquiétez pas, tout sera prévu.
Donc au c'est 45 rue François Gauthier à Lens. Pardon.
Parfait, le très local. Bien. C'est au local du planning familial, effectivement. Autre point de l'asso, comme tous les premiers vendredis de chaque mois, il y a le bar LGBT. On a repris en septembre, là, après plus de 6 mois d'interruption. Pareil, grâce à des mesures sanitaires que nous avons prises, on peut se retrouver et parler de tout et n'importe quoi entre personnes LGBTQIA+. Pendant 2 heures, à partir de 17h, le premier vendredi de chaque mois. Donc, petit rappel. Et on sort de l'association. Là, on parle plutôt des journées mondiales qui vont se dérouler bientôt. Il y en a deux à 2 jours d'intervalles qui sont très importantes. La première, c'est le 26 septembre. C'est la journée mondiale de la contraception.
Voilà. Et donc, la meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit.
Tout à fait. Merci.
Excuse-moi.
Non, mais...
Je crois que je vais faire des interruptions comme ça tout le temps.
Tu
peux me jeter
c'est...
des crayons, hein, si tu veux.
J'en ai qu'un, donc ouais. Ça serait compliqué. C'est un cas de couleur, donc chaque mine, je peux t'envoyer 3 fois. Et 2 jours après, le 28 septembre, c'est la journée mondiale du droit à l'avortement. Donc, c'est quand même un sujet qui est encore d'actualité, qui y a encore des pays qui font parler d'eux à cause de ça, des gouvernements qui... Un gouvernement qui l'accepte et puis le gouvernement après qui veut le retirer, ou des gouvernements qui ne veulent toujours pas que les femmes aient droit à l'avortement.
Et puis ici aussi, toutes les difficultés et les freins qui sont mis à l'accès à l'avortement, même si ça fait 40 ans que l'avortement est légalisé, ça reste encore bien difficile d'y accéder. Et puis alors, ce serait qu'on pourra faire tout un sujet sur
oui.
Comment il a été difficile d'accéder à l'avortement pendant le confinement, par exemple.
Ouais.
Ça pourrait peut-être mériter une émission, d'ailleurs.
Voilà, d'ailleurs.
Mais effectivement, pendant le confinement, dans les permanences téléphoniques et mails qu'on a pu avoir, il y a eu des gros soucis, en tout cas, d'accès effectivement à l'avortement, quel qu'il soit.
Et à ce sujet, Micro Rebelle a consacré une interview pendant le confinement à Aline, qui était à l'époque salariée du planning familial, sur justement cette question de difficulté d'accès à l'avortement pendant le confinement. Et donc vous pourrez retrouver ça sur le site internet de la web radio.
Bah, de toute façon, quand le podcast sortira sur Micro Rebelle, on mettra le lien, comme ça au moins on pourra l'écouter. Donc ça sera...
Puis on rappelle qu'être pour le droit à l'avortement, c'est être pour le droit au choix et au libre choix. Et ça n'empêche pas d'avoir des enfants. C'est-à-dire chacun fait comme il le souhaite au moment où il le souhaite.
Ce qui sera notamment sujet dans l'émission aujourd'hui et du mois d'octobre, cette question de vouloir avoir des enfants ou vouloir ne pas en avoir.
C'est ce que j'allais dire, la transition est toute faite, j'ai envie de dire. Donc l'agenda tout simple vient de se terminer. Passons à l'agenda culturel. Sarah et Lily, vous nous avez deux livres à nous présenter pour cet agenda culturel. Alors, on avait dit c'est Sarah qui commençait et on rebondit avec Lily.
Oui, on peut faire ça.
Allez, c'est parti alors.
Sarah, elle a bien bossé. Alors.
Non, tu veux dire...
Quelle pression tu me mets.
Tu veux dire que c'est la seule qui est forcément...
Alors, j'ai lu là dernièrement un livre qui est sorti cet été, La puissance des mères de Fatima Wasak. Donc, c'est un livre qui vient tout juste de sortir et dont on parle actuellement dans les différentes actualités. Donc Fatima Wasak, c'est une consultante en politique publique qui s'est largement penchée sur différentes questions politiques. Elle est issue d'une famille qui a grandi à l'île Sud, issue de l'immigration marocaine. Son père était ouvrier. Et elle-même vit aujourd'hui à Bagnolet, dans la banlieue parisienne. Et donc... Elle est mère et elle est à travers sa vie et son point de vue subjectif, elle s'est justement penchée sur ce rôle de mère. Et tout ça est venu à la conclusion, donc ces différentes questions sont venues à la création aujourd'hui d'un syndicat qui s'appelle le Front de Mère. Donc c'est un syndicat de parents qui a pour volonté vraiment de valoriser la place des mères et vraiment de poser ça sur le débat public et politique. Donc, son propos est complètement militant et il est issu donc d'une réflexion de plusieurs années. Elle-même a commencé à se pencher sur la question avec l'éducation de ses propres enfants et dans les années 2010, à travers la scolarisation de ses enfants à l'école, elle s'est penchée sur notamment la question des repas qui étaient pris à la cantine. Et c'est comme ça en fait qu'elle s'est rendue compte que finalement les parents n'avaient pas souvent droit de citer dans ce qui se faisait à l'école. Et elle a commencé comme ça progressivement à se pencher sur la question. Elle a intégré la FCPE. Elle s'est rendue compte que c'était pas évident non plus de parler de ces questions de repas, notamment si elle souhaitait par exemple faire manger ses enfants plutôt des repas végétariens et non pas avec de la viande. Là, elle a rencontré de fortes résistances par rapport à ça. Et dans ce livre, globalement, elle veut vraiment redonner une certaine dignité au rôle des mères et plus particulièrement les mères issues de l'immigration et aux mères qui vivent dans les quartiers populaires. Elle revendique une réappropriation du rôle de mère qui est dans la société aujourd'hui passée au second plan. Et elle part aussi du postulat féministe qui affirme du coup la liberté de ne pas avoir d'enfants. Et ce postulat, selon elle, aurait passé au second plan du coup cette importance qu'aurait la mère dans l'éducation forcément de ses enfants, mais aujourd'hui, ce rôle n'est pas aussi valorisé qu'il le pourrait être, et elle veut vraiment réinvestir les mères dans toute la puissance qu'elle pourrait avoir au niveau de l'éducation. Voilà. Donc c'est un livre qui est intéressant, qui permet de se pencher sur des questions politiques au niveau de la maternité. Et
ouais, elle veut croiser en fait la question qui est pas flagrant pour tout le monde, que la question de la maternité et de la parentalité, c'est-à-dire le fait d'être parent, mère en particulier, soit politique. Souvent on l'a plutôt vu comme quelque chose de privé et d'anecdotique, puisque traditionnellement, c'était plutôt les pères qui avaient droit à l'autorité et à la puissance. Peut-être qu'elle croise ce fait de société-là, ce besoin de reconnaissance des mères avec effectivement des questions j'ai presque envie de dire que c'est de l'intersectionnalité avec des questions de classe, donc oui. Classe populaire,
oui.
Et des questions d'origine, puisque le mot race est compliqué. Du coup, là, en France, on ne l'utilisera pas de la même manière qu'aux États-Unis. Donc, c'est effectivement un point de vue vachement intéressant. Plus l'école, plus le carcan de l'école.
Oui. En fait, elle-même étant issue d'une famille d'immigrés, vivant dans un quartier populaire, donc à Bagnolet, sa première question, c'était de savoir comment je vais pouvoir préserver mes enfants de toutes ces questions raciales, quand même, qui sont posées en France à travers, du coup, une histoire compliquée au niveau français, on va dire. Par rapport à cette conscience politique-là, elle veut vraiment, du coup, que ses enfants ne soient pas pris dans ce carcan et dans un cadre, peut-être, dans lequel ils vont être pris malgré eux du fait de leurs origines maghrébines. Et elle veut vraiment sortir, disons, ses enfants de quelque chose qui est déjà construit pour eux à l'avance.
Du stéréotype.
Des stéréotypes.
C'est déconstruire le stéréotype qui aurait pu être construit sur les quartiers populaires habités par des personnes issues de l'immigration maghrébine et qui reproduit ou pas dans le fantasme médiatique ou pas des comportements stéréotypés. Et elle voudrait que ses enfants puissent se construire différemment et aient le choix de se construire différemment.
Et pour cela, du coup, elle revendique vraiment la place des mères et elle affirme, du coup, l'idée que les mères doivent s'investir justement dans l'école, dans les structures publiques pour sortir, du coup, de tous ces carcans qui sont posés, quoi.
Tu parlais tout à l'heure, hors antenne, du rôle, tu viens de l'évoquer, mais du rôle des mères aujourd'hui qui est un peu le rôle tampon.
Oui, ouais.
Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus ?
Alors, dans son livre, Fatima Ouassak, elle stipule que finalement, les mères ne sont qu'utilisées pour maintenir et protéger leurs enfants. Et c'est un rôle qui leur est donné par la société. Donc, on va dire à ces mères-là, gardez vos enfants à la maison, il ne faut pas qu'ils sortent, parce que s'ils sortent, ils vont brûler des voitures, ils vont faire des bêtises. Donc, à vous d'être responsable de vos enfants à ce niveau-là. Mais du coup, les perspectives d'avenir de ces enfants-là, si ce n'est que de rester à la maison. Et après, peut-être par la suite, d'avoir des emplois qui sont un peu, entre guillemets, de seconde zone, si on peut le dire comme ça. Ou du coup, on va les destiner à des emplois qui ne sont pas
à valoriser.
Oui, voilà. Donc voilà, pour elle, la société fait de ces mères-là des mères tampons qui vont avoir pour rôle de base juste de garder leurs enfants bien sagement à la maison et faire en sorte qu'il n'y ait pas de confrontation avec la police. Mais en fait, son livre « La puissance des mères », elle commence son propos par présenter une autre association de mères qui s'est construite dans les années 80, qui s'appelait les Folles de la place Vendôme. Ce groupe de femmes s'était constitué à la suite de plusieurs meurtres, quand même, par la police d'enfants issus de l'immigration. Il y avait une dizaine d'enfants de moins de 18 ans qui avaient été tués par la police à l'époque et ça avait fait beaucoup de bruit parce que finalement, en fait, dans les médias, on n'en parlait que comme tel jeune délinquant s'est fait attraper par la police et puis finalement est mort, accidentellement. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment des accidents ? Puisque à chaque fois, ça ne concernait que des enfants issus de l'immigration. Et donc, elles se sont posées dans le débat public en tant que, nous sommes les folles de la place Vendôme. Et ce nom vient des folles de la place de Mai. C'est un groupe, militant politique, issu, là, cette fois-ci, de l'Argentine et d'enfants qui, en Argentine, avaient été tués par le pouvoir en place, par la dictature, en fait, et on les avait appelées de l'extérieur les folles de la place de Mai parce qu'elles allaient régulièrement manifester sur cette place de Mai en Argentine et on les avait traitées de folles. Folles, forcément, qui renvoient au fait que les femmes sont hystériques, qu'elles ne sont pas forcément valides, qu'on ne peut pas leur donner du crédit, etc. Et puis elles avaient repris ce mot-là de folles à leur compte en disant oui, effectivement, on est peut-être folles, on est les folles de la place de Mai, et on milite pour justement la justice. Et du coup, ces femmes parisiennes, du coup des années 80, ont repris à la suite de ça ce nom, donc les folles de la place Vendôme, pour du coup militer et manifester leur révolte par rapport à tous ces enfants qui sont morts suite à des confrontations avec la police. Et du coup aussi, Fatima Wassak milite également pour quelque chose d'international, pas simplement... Donc c'est pas pour rien qu'elle a créé un syndicat du coup qui s'appelle le Front de Mer, qui est un syndicat de parents qui veut se placer au niveau politique et pas simplement comme la FCPE au niveau local, mais elle voit encore plus large puisqu'elle veut aussi s'étendre au niveau même international et faire... en sorte que le rôle des mères, dans quelque milieu que ce soit, soit valorisé et redoré, qu'on leur redonne une place digne et pas simplement de mère tampon.
Et voilà. C'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure du fait de créer une asso, enfin de ne pas créer une asso, mais plutôt de créer un syndicat, ça donne une importance différente et le côté politique.
Oui, et que du coup, au niveau du débat, on se place à un autre niveau et à une autre échelle. Voilà.
Et puis moi, ce que ça m'interpelle, c'est redonner. Enfin, tu vois, il faudrait voir par rapport à quoi elle place son débat. Est-ce que c'est redonner par rapport à une époque précédente, par rapport à un lieu ou autre,
ou par rapport à une culture aussi différente. Parce que, par exemple, elle va parler des femmes africaines qui, dans certaines ethnies, la place de la mère ne pose pas question, puisque, en fait, elles vont se battre pour des droits, peut-être, mais en tout cas, elles sont mères et leurs enfants, elles les emmènent partout. Les enfants sont intégrés dans la société et, finalement, ce rôle de mère, il fait partie constituante de leur vie et c'est pas une question. Alors que, peut-être, dans les milieux occidentaux, en tout cas en France, le rôle de mère va être toujours une question présente, ne serait-ce que par exemple au niveau de l'emploi ou des débats qu'on peut avoir. Et donc pour elle, c'est vraiment de se dire, oui, il faut que ce rôle de mère ne soit pas juste l'idée de, enfin l'image de cette femme qui est à la maison, dans le foyer, qui s'occupe des enfants. Qui est là simplement pour faire à manger et puis faire en sorte que les enfants restent à la maison.
Oui, c'est ça, parce que là, on peut voir en termes de... Je ne sais pas si c'est pour l'Occident, parce que je pense qu'il y a dans différents endroits où on a mieux pensé, par exemple, ne serait-ce que l'espace public, la place dans l'entreprise, la place des femmes dans l'entreprise ou autre. Mais en France, ce n'est pas le cas. Il y a encore énormément d'entreprises qui embauchent énormément de femmes et où il n'y a même pas de crèche. Mais dans d'autres pays, je pense peut-être en Scandinavie peut-être certains endroits aux États-Unis, je ne sais pas, où les grosses entreprises ont monté eux-mêmes leurs propres crèches, jardins d'enfants, parce qu'ils avaient des employés qui avaient des enfants, qu'elles soient femmes ou non, d'ailleurs, ces employés. Mais on sait qu'en France, il n'y a pas cette réflexion-là, parce qu'on est sur une société patriarcale et traditionnaliste, même si on essaye de nous bercer de féminisme, parce qu'il y aurait eu mai 68, et puis parce qu'on aurait légalisé la contraception et l'avortement, et du coup tout aurait été fait. C'est un peu qu'est-ce qu'elles veulent encore, alors qu'on sait pertinemment que... je sais pas, moi, en dehors même du travail, hein, je sais qu'ayant des enfants, ça m'empêche pas d'avoir envie de boire un café en lisant un journal tranquille. Et que quand on a des enfants, s'il n'y a pas un lieu spécifique où les enfants peuvent être occupés, c'est pas possible de boire un café tranquille quand on a des enfants. Et le seul endroit où on peut le faire, c'est le McDo. Alors, on n'est pas là pour faire de la pub, mais moi ça m'afflige de me dire les premières fois où j'ai vraiment mis les pieds à McDo, c'est pour me dire je vais les coller dans les jeux là-bas en plastoc et tout, comme ça je pourrais boire mon café et lire mon journal, parce que ailleurs non, on peut pas entrevoir que les femmes aient ce genre de besoin. Comme il y a des parcs pour enfants en ville et il y a rien autour, on va en Espagne, il y a des parcs pour les enfants autour, il y a plein de terrasses. Il y a plein de bars, il y a plein de terrasses, c'est prévu pour, parce qu'on peut entendre que les femmes se sociabilisent aussi autour des parcs pour enfants et pas qu'en étant assis sur le banc. C'est des digressions, hein, mais je pensais aussi vis-à-vis de l'éducation nationale où ça m'interpelle de dire redonner, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait déjà eu une place pour les parents. Il faudrait qu'on revoie, qu'on invite de vieux et vieilles syndicalistes, enseignantes, pour voir ce qu'il a pu être tenté. Mais bon, l'école des années 50, on sait qu'elle a été fermée. C'était l'institut, le curé et le maire qui maîtrisaient tout dans le village. Bon, sur les villes, ça marchait forcément différemment, mais on sait que l'éducation nationale ne veut pas des parents au sein. Alors si, on en veut des grands-mères, pour venir préparer les jacinthes à Noël.
Ou pour les sorties scolaires quand il y a besoin d'aide.
Voilà, cuisiner les gâteaux pour la kermesse. Mais dès qu'il est question de dialogue, de projet d'établissement scolaire, il y a pas de place pour. Alors on nous dit si vous êtes
ça, c'est quelque chose qu'elle prend du doigt.
Il y a un conseil d'école, le conseil d'école, les parents. Enfin, moi j'y ai siégé. Les conseils d'école, on s'en fout complètement de la parole de qui que ce soit d'autre
et
que,
quand
le directeur, la directrice qui prend la parole, qui fait son petit truc et puis basta, on signe à la fin et c'est tout. Quoi.
C'est pareil quand il y a les conseils de classe. Il y a les représentants des parents. Moi, pourtant, j'en ai fait quelques-uns. J'en ai vu deux de parents différents, trois. Mmh. Ça fait 4 ans que je suis dans le même établissement et c'est toujours les mêmes qui viennent. Donc... J'ai pas l'impression que les parents aussi, vu que l'école ne leur laisse pas de place, ils veulent pas non plus
s'investir
là-dedans et ça se comprend.
Bah c'est un peu aussi la peur de l'école parce que aussi en tant qu'ancien enfant certainement pas à sa place à l'école, en tant que parent pourquoi il aurait sa place également.
Alors il doit y avoir...
ce sont des parents qui font partie aussi des classes populaires.
C'est ça.
Et dans le livre La puissance des mères, c'est aussi de pointer, elle pointe du doigt vraiment le fait que les classes populaires ne sont pas admises dans le milieu scolaire parce que elles ont pas du coup le background, on va dire, enfin l'éducation qui va avec le milieu scolaire.
Donc
quoi.
Ça dépend des établissements. Effectivement, nous, où Sarah et moi travaillons, c'est un milieu qui est très populaire. Et donc forcément, il y en a certains parents, ils ont eu de mauvais souvenirs à l'école et ils ne veulent pas non plus s'investir pour leurs gamins. Quoi. Parce qu'ils doivent se dire que c'est quand même la même chose 20 ans plus tard.
Oui, et puis après, il y a ceux qui veulent s'investir et puis on n'y trouve rien de satisfaisant sur des conseils d'école. Où... Alors après, c'est pareil, on parle d'expérience... C'est individuel, donc c'est probablement pas représentatif. Hein, mais moi, j'ai été au conseil d'école au moins sur une année. Et je pense qu'après, je n'ai pas besoin d'y retourner. Quand on me fait le conseil d'école le 8 mars, par exemple, et que je sais que je vais passer 2h30 là et qu'on n'aura pas vraiment le droit à la parole, quand même les questions données à l'avance ne sont pas levées parce qu'elles sont gênantes et qu'on ne puisse pas mettre en débat le projet d'établissement, ça n'a absolument strictement aucun intérêt de venir perdre du temps juste pour signer une feuille. Mmh. Ce qui est gênant parce que s'il n'y a pas le nombre de personnes... et les fonctions réglementaires, le conseil d'école pourrait être invalidé. Donc c'est tout ce qui intéresse les directeurs, les directrices, qui n'ont pas un sens politique de l'action et qui ne se disent pas que, effectivement, chez les maires comme chez les parents, il peut y avoir un nombre de ressources incroyables sur un fonds d'école à qui on coupe les subventions, à qui on coupe les financements. On enlève les contrats aidés, on enlève les agents administratifs. Les directeurs, les directrices d'école sont submergés de travail et pourraient du coup effectivement s'appuyer sur les savoir-faire des parents. Et où là, effectivement, il y a une impossibilité, quoi. Et ce qui doit être doublement frustrant quand on est au sein de la société, victime de discrimination, avoir une difficulté d'avoir le droit à la parole ou autre, on doit le vivre de manière deux fois plus violente, effectivement, que quand on vit déjà pas ça et que c'est pas la panacée. Enfin, l'éducation nationale, elle n'est pas réputée pour être ouverte, open au dialogue.
Touga, tu voulais rajouter quelque chose ?
Ouais, moi je voulais juste revenir sur ce qu'on disait peut-être un peu plus avant. Je tiens à préciser donc, que je n'ai pas lu le livre dont tu parles, Sarah, mais je ne remets pas du tout en question son envie et sa décision d'avoir créé un syndicat de parents avec plutôt des mamans. Moi, quand j'entends tout ça, ça me pose question sur le fait qu'effectivement, on en parlait déjà hors micro tout à l'heure, que pour arriver à des résultats tels qu'on les décrit, en fait, c'est la société dans son ensemble qu'il faut revoir. On parlait de justice, on parlait d'éducation nationale, on parlait de la police également, de comment, voilà, Lily, tu l'évoquais, Sarah aussi, on est effectivement en France, dans un pays qui n'a absolument pas réglé les questions, que ce soit patriarcales, postcoloniales et racistes. Et donc, à partir de là... Je me demande si finalement tout ce que dit l'auteur, mais tu sauras mieux que moi, tout ce qu'elle revendique ne s'accompagne pas obligatoirement d'un changement radical. Et de là, pour moi, en fait, c'est à chaque individu qui vit ici et ailleurs d'ailleurs de s'en emparer. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément besoin d'être maire pour avoir la volonté que les enfants de notre village, de notre département, de notre région, de notre pays puissent en fait marcher dans la rue sans se faire arrêter par la police, rester en vie tout simplement. Et, que,
et avoir des perspectives aussi qui sont autres que de faire les métiers
que d'autres veulent faire. Au ras
des pâquerettes, quoi. Mmh. Ouais, voilà.
Lily.
Ben là-dessus, j'enchaîne moi sur le livre que je voulais présenter,
ouais.
Qui est plutôt un roman, du coup, comparé au livre que tu présentais, qui est plutôt une forme d'essai.
Enfin,
un,
ouais, oui, tout à fait.
Un essai. Moi, je voulais présenter « Les femmes sont occupées » de Samira El Hayashi, qui est originaire de Lens. Elle est notre coin.
Bah, dis donc.
Que des auteurs issus de la région.
Et elle, bah pareil, c'est une approche de la parentalité, c'est une approche de la maternité. J'ai l'impression qu'il pourrait faire écho un peu à ce dont tu as parlé, parce qu'on n'a pas mentionné le fait qu'il était très peu question des hommes dans les questions c'est de parentalité autour des fronts de mer et de la puissance des mères.
Elle s'intéresse, Fatima Wasak, tout d'abord au rôle de mère, parce qu'elle parle de sa propre subjectivité. Mm-hmm. Son syndicat s'appelle le Front de mer. Voilà, ça peut rappeler un peu des souvenirs poétiques, mais ce n'est pas fermé aux hommes. C'est vrai qu'après, le rôle des hommes n'est pas très souvent mentionné dans son livre.
Voilà. Et donc là, nous, Samira El Hayashi, je peux vous lire peut-être le comment on appelle ça, le pitch, mais comment on dit ça en français ?
Le synopsis.
Ah, merci. Voilà, elle doit monter une pièce de théâtre, finir sa thèse, lancer une machine, régler des comptes ancestraux avec les pères et les patrons, faire la révolution tout en changeant la couche de petites choses. Au passage, casser la figure à maman ours et tordre le cou à la famille idéale, réussir les gâteaux d'anniversaire, retrouver la dame de secours, croire à nouveau en l'autre. Comme toutes les femmes contemporaines, la narratrice de ce roman est très occupée. Découvrant sur le tas sa nouvelle condition de maman solo, elle jongle avec la solitude sociale, sa solitude existentielle, et s'interroge sur les liens invisibles entre batailles intimes et batailles collectives. Résolument féministe et humaniste, un roman à la langue inventive et teinté d'humour tendre. Donc, elle prend le parti, effectivement, de parler d'un parcours de maman solo. Moi, j'ai beaucoup aimé... J'ai beaucoup aimé le texte parce que elle enfonce des portes ouvertes qui n'ont pas l'air d'être ouvertes tout le temps où on les a pas posées et mises en mots. Notamment le fait qu'elle elle s'interroge et elle va se confronter. Je pense que les passages les plus criants pour moi, c'était quand elle se confronte à la justice pour les histoires de garde, et où elle surprend les avocats, les juges, tout le monde, et elle est vue comme une infâme plutôt qu'une femme, parce qu'elle elle saisit la justice pour contraindre le géniteur à devenir père et à prendre ses responsabilités, parce qu'elle, elle doit écrire, elle doit monter sa pièce de théâtre, elle a des tas de choses à faire et tout, et qu'elle ne voit pas du tout comment elle pourrait faire ça en étant seule, avec peu de moyens financiers, peu appuyée par sa famille du fait d'un éloignement géographique. Voilà, si elle n'a pas de relais, on n'écrit pas. Hein. C'est un peu pareil, ça peut faire écho à des tas de choses qu'on a lues aussi pendant le confinement sur le travail, le télétravail et le travail à domicile, comme si il était faisable de garder ses enfants et de continuer de travailler en même temps. Et donc, elle veut pousser et elle voit qu'elle surprend et que ça a l'air d'être un combat que de se dire « ben non, oui, je suis une femme et je ne suis pas nécessairement une mauvaise mère quand j'exige que le père prenne ses responsabilités également et ne le prenne pas qu'un week-end de temps en temps. » Est-ce qu'il va des fois un peu à contresens avec des phénomènes sociaux qu'on a un peu vus des fois avec des pères qui... peuvent se plaindre de ne pas avoir droit à la garde alternée ou pas avoir suffisamment de garde et rentrer dans des conflits avec leurs ex-conjointes et accuser par exemple la justice d'être sexiste puisque les juges seraient des femmes et qu'elles donneraient plus facilement la garde aux femmes comme un peu une espèce de féminisme et de corporatisme et qu'ils, eux, ne voient pas le sexisme intégrée, effectivement, de la justice, et y compris de ces femmes juges qui continuent de remettre la garde aux femmes dans l'idée que la femme est maternante, la femme est maternelle, et que les hommes ne le sont pas, et que quand même, avec les enfants en bas âge, il est mieux que les enfants soient avec leur mère qu'avec leur père, en faisant parfois fi de difficultés financières ou de la volonté réelle des personnes. Je ne sais pas si j'étais assez claire.
C'est très clair. Tout à fait.
Bien complet, en tout cas.
Voilà. Après, il y a aussi, je ne voudrais pas avoir une levée de bouclier sur les difficiles conditions des agresseurs conjugaux, de ces hommes violents et manipulateurs qui sont capables de montrer une très belle façade à la justice et d'obtenir des gardes, alors qu'ils ont, ils se sont rendus coupables de violences sur leur conjointe, leur ex-conjointe et sur leurs enfants. Ou tous ceux qui, effectivement, il y en a eu quand même quelques-uns ces dernières années, qui se sont plaints et qui ont eu un très grand écho médiatique parce que ça allait à l'encontre du stéréotype des pères qui ne prendraient pas leurs responsabilités, puisque ce sont des hommes qui ont, alors je vais utiliser un terme négatif parce qu'on sait comment ça aboutit après, hein, qui sont venus geindre devant des caméras, devant des micros, sur des grues ou autres, alors qu'en fait ils étaient responsables et coupables de violences intrafamiliales, et que c'est pour ça aussi qu'ils n'avaient pas eu leur garde, ou surtout qu'ils n'avaient pas intégré que l'affectivité des enfants n'allait pas à géométrie variable, hein, et c'est une question qui est vraiment délicate dans la séparation, les divorces, les droits de garde, quand on a des professionnels de la justice ou de la médiation familiale qui ne sont pas formés à la déconstruction de genre et à l'égalité, et qui vont trouver effectivement complètement normal, pour une question d'égalité, c'est normal que les hommes et les femmes puissent avoir le même droit de garde sur leurs enfants. C'est pas quelque chose qu'on...
Mais il faut étudier chaque cas.
Voilà, il faut étudier les cas, et il faut savoir reconnaître un homme qui ne s'aperçoit qu'il avait une famille et qu'il avait des enfants et qu'il aurait dû avoir des responsabilités, notamment affectives. Je veux dire, prendre un enfant dans ses bras, le lever le matin, le coucher le soir, faire des activités extrascolaires, avoir une vraie dimension affective avec son enfant avant de découvrir que sa conjointe se sépare. Voilà, il y en a beaucoup qui estiment que c'est un acquis, la famille c'est un acquis, la conjointe c'est un acquis, et que c'est pas de leur boulot d'avoir à torcher les culs des mioches, hein, on va dire ce qui est, et qui donc ne construisent pas de lien affectif réellement avec les enfants, et c'est seulement quand il y a une séparation, seulement quand ils découvrent que voilà, ils vont se retrouver seuls les trois quarts du temps, et qui au départ ne font même pas de demande de garde alternée, donc ils ont un week-end sur deux, quelque chose comme ça, et qui là se mettent à exiger en fait une garde alternée avec des enfants qui sont pas du tout habitués aux liens affectifs, qui n'ont rien construit avec leur père.
Ouais.
Bah, deux livres à découvrir, du coup.
Voilà, on vous mettra les liens sur Micro Rebelle, comme ça au moins vous pouvez aller feuilleter, les acheter, etc. Pour terminer sur la parentalité aujourd'hui, moi j'ai un projet de loi que j'ai vu passer dans les journaux au début du mois de septembre, où on remet en cause le fameux congé de paternité. Donc le congé de paternité, c'est à la naissance d'un enfant, le papa a 11 jours de congé, et ça peut aller jusqu'à 18 jours quand il y a des grossesses multiples. Là, la question qu'ont posé un groupe parlementaire qui s'appelle Écologie, Démocratie et Solidarité, c'est que, par exemple, pour les couples de femmes, couples lesbiens, c'est que la mère qui n'a pas porté l'enfant a les mêmes droits que le père pour un couple hétérosexuel. Donc, en fait, il n'y a que 11 jours de congé disponibles pour la mère qui n'a pas porté l'enfant. Donc là, en fait, le projet, c'est que pour prendre en considération ces nouveaux types de familles, on va dire ça comme ça, là, ça ne serait plus un congé de paternité, mais un congé de parenté. Donc ça sera les parents, quels qu'ils soient, peu importe le genre des parents. Et il sera de 12 semaines avec 8 semaines obligatoires. Donc on peut prendre jusqu'à 12 semaines. Et c'est vraiment, ils veulent vraiment une loi à viser. Visant à créer un congé de parenté égalitaire et effectif. Donc 12 semaines, voire 13 si grossesse multiple. Par contre, ça n'enlève pas le problème du congé quand il y a des couples homosexuels, donc gays, qui ont recours à une GPA dans des pays étrangers. Là, par contre, il n'y a toujours pas de recours à ça. De toute façon, ça sera à suivre très prochainement parce que le débat aura lieu en séance plénière à partir du 8 octobre. Donc, il y aura sûrement des échos par rapport à tout ça, à savoir est-ce que le projet de loi tel qu'il est proposé sera gardé tel quel ou il y aura des modifications à faire. Mais en tout cas, c'est une avancée à ne plus avoir que 11 jours et d'avoir aussi d'autres familles, types de familles, voilà, entre guillemets, de plus rester dans le schéma hétéronormé comme on connaît.
C'est-à-dire que c'est plus inclusif ouvrir à d'autres familles que des familles hétérosexuelles, mais c'est surtout par rapport à ce qu'on venait de dire sur l'implication des pères. Ça peut être effectivement un début de pouvoir imaginer que les premières semaines de la vie, les deux parents, quels qu'ils soient, puissent soutenir l'un l'autre dans ces semaines vraiment compliquées. Mmh. Ça peut être vraiment chouette et vraiment permettre de créer un lien, effectivement, entre la personne qui n'a pas porté l'enfant et l'enfant. Comme aussi sur les modifications qu'il y avait eu il y a quelques années sur le congé parental, qui est possible, il est possible maintenant de le prendre même quand on est le parent qui n'a pas porté l'enfant. Alors pour le coup, je vais dire père, parce que je ne sais pas si sur les subtilités du langage, du vocabulaire, ce changement de loi sur le congé parental a inclus les couples non hétérosexuels, par exemple.
Bah, apparemment, vu que pour les congés de paternité, entre guillemets, pour les couples lesbiens, ça fonctionne de la même manière. Peut-être que ça fonctionnerait de la même manière aussi.
Ce qu'on sait pour autant, c'est que le congé parental égal, il n'a pas vu, alors je n'ai pas de chiffres, parce que faudra qu'on se penche peut-être un peu là-dessus, mais on n'a pas vu un raz-de-marée de pères qui ont pris leurs 18 mois possibles, selon le nombre d'enfants, tout ça. Par contre, ça a réduit, du coup, de moitié la possibilité de congé parental pour les mères de couples hétérosexuels. Mmh. Pour le coup, on ne peut avoir 3 ans de congé parental que quand on est seul. Si on est en couple, on a 1 an et demi et l'autre année et demie, ça doit être le père qui le
prend. C'est ce que j'allais dire là pour ce congé de parenté. Reste à savoir ces 12 semaines, comment elles sont réparties. Est-ce que c'est...
Et comment elles seront financées, indemnisées?
Alors, il y a... Alors, attendez, il faut que je retrouve le site internet parce qu'il y avait un chiffre qui était donné à la fin du...
Parce qu'un congé parental, par exemple, classique, pour l'instant, c'est 390 €, sur lequel s'ajoute une allocation... parentale. Ouais. Donc, en gros, on peut être sur du 600 ou 700 euros pour la personne qui a eu un enfant et qui est en congé parental. Ça ne remplace pas quand, si effectivement, le monsieur est déjà celui qui gagne le plus et qui va, du coup, troquer un salaire, peut-être 1500, 2000 euros pour 700 euros. Il faut voir ce que l'épouse ou la conjointe gagnait pour contrebalancer.
C'est, alors, il n'y a pas d'argent... pour les parents, combien ils vont être indemnisés. Par contre, ils estiment un coût de 2,1 milliards d'euros pour les caisses d'allocation familiale. Donc,
ce qui sera facilement couvert si on allait récupérer les 80 milliards d'évasion fiscale.
On revient toujours à la même, question des fameuses fraudes, à savoir qui doit payer tout ça. Voilà. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause? Une petite pause musique. Sarah nous a ramené un petit groupe de par chez elle.
C'est ça. Donc, c'est un groupe qui s'appelle 13e mois.
Alors, sans S, c'est M-O-I.
Voilà. Alors, 13e mois écrit en lettres, M-O-I. Donc, c'est deux mecs qui parlent de masculinité toxique. Et donc, tous leurs titres sont sur ce sujet. Et là, on va écouter un titre qui s'appelle Marin Machine et qui parle de pornographie. On vous laisse écouter.
Bienvenue sur www.chatenchaleur. Êtes-vous majeur, vous 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 majeur.
Il a le truc qui le démange, un désir qui le dérange, un désir à saisir, à 5 doigts de jouir. Assis face à l'écran, il fait solitairement sa petite affaire qui l'arrange. Oh non, monsieur n'est pas un ange, non. Monsieur fait sa vidange du contrôle technique. Au contrôle orgasmique, en quelques clics, il se connecte, débraille sa braguette et tient sa barre en navigation secrète. Anonyme matelot, il navigue sur les flots du big data porno hétéro. Cap, cap sur les îles mainstream, cap, pour une croisière intime. Et il n'y a pas que sur des mouchoirs qu'il laissera des traces ce soir. Mais ce n'est pas que du cinéma, non. Ce n'est pas que du cinéma. Les courbes féminines font grimper son débit de Wi-Fi. Décor défile, sans pile, sans fil, poupées paillettes et hommes sans tête débités en petites fenêtres. Tout est fait sur cette bande passante, pour que notre marin puisse bander en passant. Il est ce passant passager pris dans les gros phares de Lazy Sex. Certes, il pense que ce n'est que du cinéma et c'est gratuit, alors pourquoi pas. À l'abri des tabous, l'anonymat est roi et le silence est droit. Chut, aval. On n'en parle pas à table, non. Aval. Faut faire vite et sale. Car ce n'est pas que du cinéma. Ce n'est pas que du cinéma, non. Il a jeté son encre, là, là, où les scénarios sont réducteurs comme la paye des acteurs. Là, là, ça compenserait de se vider les cales en jouant aux violeurs. Là, là, là où ils écument des actrices que les producteurs mènent en bateau. Monnaient leur consentement pour accuser tout comportement violent. Elles prennent cher, là, 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 dans l'industrie du porno. Et notre marin, pit en main, les a regardés faire en s'oubliant dans le geste. Pour se souvenir des restes de ses premières fois, peut-être de ses derniers ébats, s'échouant dans le décor de ses fantasmes, il ignore tout de ses coulisses, qui n'a laissé entendre que les chants ardents des sirènes du X alors. Alors oui, c'est comme dans le cinéma des tapis rouges, mais sans ses artifices. Ils se fabriquent avec de la chair et du sperme qui, eux, ne sont pas factices. Petit film, vap, vap, vap et au lit, Marin s'endort en repensant à ses filles. À qui peut-être dit-il secrètement merci? Et on dit merci qui?
Le gang des ici. Le gang.
Bim.
Nous sommes de retour sur le gang des hystéries. Donc c'était 13e mois avec le titre Marin Machine.
Donc le groupe sera en concert le 10 octobre au Micmac à Amiens et le 22 octobre à l'île aux fruits. Donc si vous êtes dans les parages à Amiens, pourquoi pas aller faire un petit tour là-bas. Et peut-être qu'on pourra les inviter aussi pour une prochaine émission puisque question de la masculinité toxique les intéresse fortement. Et voilà, ce serait vraiment super si on pouvait les avoir avec nous et parler de ce sujet.
Ouais, de toute façon, si vous voulez avoir toutes ces informations sur le groupe, on vous mettra le lien sur la page de Micro Rebelle. Ça tombe bien que tu parles de Micmac, parce que c'est le moment de l'émission Micmac, l'interview qui gratte. Aujourd'hui, pour l'interview, nous allons accueillir, si je ne dis pas de bêtises, Stérilé et Herpès.
L'émission Micmac, l'interview qui gratte.
Get down! Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Micmac pour l'interview qui gratte. Tous les mois, nous accueillons sur notre plateau un moyen de contraception et une infection sexuellement transmissible, afin qu'il et elle se présentent et pour en savoir plus sur leur histoire, leurs fonctions et comment les trouver ou s'en débarrasser. Aujourd'hui, nous recevons comme invités Stérilé et Herpès. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer le tour des présentations, Stérilé, pouvez-vous nous raconter qui vous êtes ?
Je m'appelle communément Stérilet, le monde médical me nomme davantage DIU qui veut dire dispositif intra-utérin. Je suis un moyen de contraception qui se place, comme mon nom l'indique, dans l'utérus. Je suis en forme de T et mesure 3 cm de long. J'ai un fil qui dépasse dans le vagin pour faciliter mon retrait.
Il me semble que votre particularité est d'être de deux types différents.
Tout à fait. Je peux être composée de cuivre ou d'hormones, on m'appellera alors DIU au cuivre ou DIU hormonal. Pour ma version en cuivre, c'est très simple. Il se trouve que les spermatozoïdes ne supportent pas le cuivre. Je les rends donc inactifs. Quand je suis hormonale, je contiens une hormone progestative, le lévonorgestrel, que je vais délivrer en petite quantité. Cette hormone a plusieurs effets. Un effet contraceptif, elle épaissit les sécrétions du col, c'est-à-dire l'entrée de l'utérus. Les spermatozoïdes ne peuvent donc plus passer. Et comme je l'ai déjà évoqué, un effet sur les règles. Je peux diminuer la durée et le volume des règles, ainsi que les contractions douloureuses qui les accompagnent. Certaines personnes qui m'utilisent n'ont d'ailleurs pas de règles pendant qu'elles me portent. Dans ces cas, ne pas avoir ces règles est sans danger pour la santé ou la fertilité.
Alors, quels sont vos avantages et vos inconvénients ?
J'ai beaucoup d'avantages. Je suis efficace de 4 à 10 ans, selon mon modèle. Et une fois placée dans l'utérus, la personne qui me porte peut m'oublier. Je reste dans l'action, contrairement à mon amie pilule, à qui vous devez penser quotidiennement. Dans les deux cas, le fait que je sois dans l'utérus crée une inflammation de la muqueuse, empêchant la nidation d'une cellule œuf. Et je suis efficace à près de 99% dès mon insertion dans l'utérus, quand je suis en cuivre, et 2 jours après, quand je suis hormonale.
Et alors, côté inconvénient ?
Bon, d'accord, j'ai quelques défauts. Quand je suis en cuivre, j'ai des effets sur les règles qui peuvent devenir plus abondantes et douloureuses, alors que quand je suis hormonale, c'est l'effet inverse, jusqu'à l'absence de règles. Par contre, mes hormones peuvent provoquer des effets secondaires indésirables, comme ma copine pilule, à savoir prise de poids ou poussée d'acné. Et de manière plus grave, s'il y a quand même fécondation en ma présence, comme la cellule œuf ne peut pas se nicher dans l'utérus, il y a des risques de fausse couche ou de grossesse extra-utérine.
Merci beaucoup pour ces précisions. Et sans indiscrétion, quel est votre âge ?
Alors je suis vieille, j'ai 92 ans. Et j'ai été inventée en 1928 par Ernst Grafenberg, un médecin et chercheur allemand. Et il paraîtrait qu'aujourd'hui dans le monde, 150 millions de personnes m'utilisent.
Comment peut-on vous trouver et vous installer dans l'utérus ?
Je peux être mise en place soit par un ou une médecin généraliste, soit par un ou une gynécologue, soit enfin également par un ou une sage-femme. La pose en elle-même est très rapide. Je suis prescrite par ordonnance et on me trouve en pharmacie. Je coûte environ 30 euros quand je suis en cuivre et environ 120 euros quand je suis hormonale. Mais rassurez-vous, je suis remboursée à hauteur de 65% par l'assurance maladie. Et pour les personnes mineures et les non-assurées sociales, je suis gratuit et confidentiel en pharmacie ou dans les centres de planification et d'éducation familiale.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions stérilées. Alors avant de passer la parole à Herpès, pouvez-vous répondre à ces deux questions dont la réponse n'est pas toujours clairement sue ? Tout d'abord, est-ce qu'une personne qui n'a jamais eu d'enfant peut vous utiliser ?
Bien sûr, et les situations où je ne peux pas être posée dépendent de contre-indications comme des malformations de l'utérus, un cancer du col de l'utérus, la présence d'IST et ainsi que certaines maladies spécifiques.
Enfin, dernière question, protégez-vous des infections sexuellement transmissibles ?
Et non, c'est une idée reçue. Pour cela, il n'y a que préservatif qui peut vous protéger. Il me semble que vous l'avez reçu sur votre plateau le mois passé.
En effet, merci Stérilé. Habile transition pour donner la parole à Herpès, puisque vous êtes vous-même une infection sexuellement transmissible.
C'est bien ça. En effet, Stérilé ne m'empêche pas de vivre ma vie tranquille ou pépère dans le corps humain, ni de me déplacer d'un corps à un autre, contrairement à préservatif qui est notre grand ennemi à nous, la famille des IST.
Alors Herpès, parlez-nous un peu de vous.
Je suis plus précisément herpès génital. Je suis une maladie infectieuse sexuellement transmissible créée grâce à herpès, un virus du nom scientifique de herpès simplex virus HSV, et plus précisément de la famille des herpesviridés qui comprend aussi les virus de la varicelle et du zona. Ma particularité est que je ne touche que les humains et les humaines.
Il y a mes cousins, herpès orofacial, herpès neuroméningé et herpès ophtalmique. On est nombreux dans la famille. Pour ma part, je suis responsable de démangeaisons, de brûlures, de petites cloques et plaies au niveau des organes génitaux.
Alors à ce sujet, comment apparaissez-vous sur les organes génitaux ?
Je peux avoir deux formes. L'une de mes formes est responsable de 95% des apparitions de herpès orofacial et de bon nombre d'herpès neuroméningé et ophtalmique. Il est aussi responsable de 20 à 40% de mon apparition par contamination orogénitale. La deuxième forme est responsable principalement de mon apparition et de 5% des herpès orofaciales.
J'espère que vous aurez tout compris. Alors, comment passez-vous d'un corps à un autre ?
Je voyage quand une muqueuse, une peau, une sécrétion vaginale ou une salive que j'ai infectée entre en contact avec une peau ou une muqueuse qui est saine. Pour qu'il y ait infection sur une peau par des fluides, par exemple la salive ou les sécrétions vaginales, il est nécessaire que la peau soit un petit peu abîmée, une petite plaie, vous voyez ? Quand j'entre dans la zone génitale, je peux ressortir à n'importe quel endroit dans la zone génitale. Par exemple, si j'entre par contact gland-fesse, je peux ressortir sur le vagin lors d'une poussée. Et je peux aussi mettre plusieurs semaines après ma contamination pour me manifester et que l'humain ou l'humaine me voit.
Eh ben dis donc. Et alors, du coup, comment peut-on se débarrasser de vous ?
Si vous ne voulez pas trop souffrir, il vaut mieux vous y prendre rapidement. Il existe un traitement oral, préventif ou local, comme de la pommade à appliquer, un traitement curatif des poussées d'herpès. Le traitement consiste à des antiviraux pour diminuer la contagiosité, réduire la douleur, la durée, les fréquences des crises. Souvent, je ne rends pas les gens très heureux car je suis très douloureux et pénible. De plus, on ne me guérit jamais totalement. Je me loge dans votre système nerveux le temps de reprendre des forces pour la prochaine poussée. Donc si vous n'avez pas la gentillesse de me filer aux autres et que vous voulez me garder que pour vous, il faudra prendre des précautions, y compris hors des périodes de crise où je reste potentiellement contagieux. Je suis considérée sans gravité, mais j'empêche les rapports sexuels pendant les poussées.
Eh ben dis donc, bien, merci à Herpès et Stérilé pour vos témoignages. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une prochaine interview qui gratte. Bonne journée à tous.
Le gang des hystériques.
Le gang. Bim.
Bon, ce monsieur Herpès, il n'est pas très gentil, hein.
Il est ravitant.
Ouais. Heureusement qu'il y a Stérilé qui nous a un peu aidé là-dedans, avoir une petite touche gentille. On arrive à notre dernière chronique. Ouais.
Oui, chronique.
Lily.
Petite chronique badass.
La chronique badass.
From her, you bitch!
Réveillez-vous, les filles! On va laisser les hommes sauver l'univers?
Dodge this.
De quoi parlons-nous?
Aujourd'hui, pour la chronique badass, eh ben, c'est le corps qui m'a inspirée. Alors, une fois n'est pas coutume hein, chez moi, hein, parce que faut dire ce qui est. Le corps, moi, mon corps, depuis qu'on me l'a transmis, un peu comme un fardeau. Tu vois, c'est un truc à moi, mais pas vraiment à moi non plus. Hein, il est là, il est fort utile, mais complètement immaîtrisé. Alors, dans mon jeune temps, il avait l'air de faire des trucs un peu, des trucs de fou, hein, que je lui demandais pas, hein, d'ailleurs. Hein, du genre, arrêter des hommes âgés dans leur voiture pour qu'ils me proposent de monter. C'était vraiment très très étrange, hein, je me souviens, ce jour-là, le seul truc qui m'était venu en tête, c'était « Hein, hein, d'accord, mais pourquoi ?» Un peu surprise dans mes pensées. Et avant que mon cerveau reptilien de 14 ans ne me crie « Mais barre-toi de là, espèce de connasse !» Et bah oui, donc mon cerveau reptilien n'est pas hyper sympa non plus avec moi. Mais bon, voilà, donc heureusement, je me suis barrée de là, hein, voilà. Et puis, bon, 20-30 ans plus tard, hein, c'est ce même corps qui est voilà, parvenu à expulser deux petits moutards. Et je ne sais toujours pas quoi en faire, en fait. Je ne me suis pas sentie responsable de ça, vraiment. Puis il est tout mou, il fait mal quand je me baisse, que je jardine. Ou alors, je crois encore danser toute la nuit, alors qu'en fait, je suis échouée telle une baleine avec une légère rythmique dans le bout des orteils dès 22h30.
lamentablement, voilà. Bref, ce corps, j'en ai fait ce que mon genre m'a imposé de faire, pas grand-chose. Plaire, enfanter, travailler. Voilà. Et puis, je lis dans la presse qu'une de mes consoeurs, qui, elle, maîtrise son corps, qui en a fait un outil de puissance, de force, de bien-être et de réussite, eh ben, les bons hommes, hein, les hommes sportifs et de justice, voilà, tous ceux qui organisent des trucs, hein, les hommes, quoi, lui imposent d'inhiber, donc par médication, le fonctionnement normal de son corps et de son métabolisme. Alors voilà, aujourd'hui, Caster Semenya, cette chronique, elle est pour toi. Mais on ne va pas parler d'elle, hein, je vais vous parler d'une autre meuf, Amna El Haddad, journaliste au Bahreïn, qui est née en 89 à Dubaï. Se trouvait elle aussi, elle se trouvait trop grosse, c'est elle qui le dit, se faisait chier dans la vie, dans cette société bien patriarcale où lui était imposé un peu, où peu de choses lui étaient proposées. Bon, alors la meuf, elle était déjà journaliste hein, quand même, hein, donc il faut quand même imaginer les autres. Bon. Donc elle s'emmerde, alors elle va marcher. Et puis elle se dit qu'elle a besoin de plus, plus fort, plus vite. Alors elle commence à courir. Puis elle commence à sprinter et elle voit son corps qui se transforme, elle embrasse sa puissance, elle découvre les salles de sport. C'est un truc qui pourrait pas m'arriver ça. Mais, et puis l'haltérophilie. Et alors évidemment, jamais une femme n'aura besoin qu'on la libère. Mais il y a bien que quand on a réussi à coller quelques coups de pelle dans le patriarcat, que les femmes parviennent à libérer leur potentiel. Hein. Donc c'est quand la Fédération internationale d'haltérophilie autorise les femmes musulmanes à porter des justes au corps qui vont de la tête aux pieds que Amna peut participer en fait aux épreuves, aux concours internationaux. Et elle devient un modèle pour de nombreuses femmes musulmanes, filles musulmanes. Et elle nous transmet un message, Amna El Haddad. Donc le message qu'elle nous délivre, c'est « J'aime être forte. Être une fille ne veut pas dire que l'on ne peut pas être aussi forte qu'un garçon, voire plus forte. Quel que soit l'âge, la religion, l'origine ethnique, le sport est bon pour tous. Il crée la paix et unit les nations. » Il faudra quand même qu'on le rappelle à quelques supporters de foot, hein, mais bon, voilà. Ouais. Elle a tout de même raison. Et donc, peu importe le défi, ne tourne jamais le dos à tes rêves. Plus tu persévéreras, plus tu approcheras de ton but. Quand les choses deviennent difficiles, endurcis-toi davantage. Eh bien donc, chère Amna El Haddad, c'est sous ton inspiration que nous soutiendrons donc Caster Semenya et son corps puissant contre ceux qui nous imposent ce à quoi servent nos corps et à quoi doivent-ils ressembler.
Dodge this.
Bravo.
Merci beaucoup, Didi. Mais c'est vrai que ça fait encore polémique. Hein. J'ai encore vu ce matin sur les réseaux sociaux comme quoi elle était obligée de prendre des médicaments pour réguler son taux de testostérone, alors que de l'autre côté, je ne sais plus quel...
Phelps.
Ouais. Phelps. Lui a aussi des...
Michael Phelps.
Ouais. A aussi des taux très élevés, mais vu que c'est un mec, ben, il n'y a pas de souci.
Voilà.
Donc effectivement, nous sommes de tout cœur avec... Caster, c'est ça ?
Avec Caster Semenya et puis avec Amna El Haddad.
Exactement, et on leur souhaite plein de médailles dans leurs différentes disciplines. Nous arrivons à la fin de cette émission, déjà. Donc je remercie Lily, Touga, Sarah d'avoir participé à cette émission. Et puis on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures avec le Gang des Hystéries.
Merci, au revoir. Salut. Bye bye.
Le Gang... Des histoires.
Bing.